VOA Afrique, les infos. À Washington, Henri Francisque.
17h à Abidjan, 18h à N'Djamena. Bienvenue à notre journal. En Guinée-Bissau, le président José Mario Vaz a entamé des consultations avec les forces vives de la nation pour essayer de sortir son pays de la crise. Il a reçu aujourd'hui notamment des représentants de la société civile et du mouvement national des femmes bissau-guinéennes. Au micro de notre correspondant sur place, Noa Mankali, les réactions de Jorge Gomes, président du mouvement de la société civile pour la paix et la démocratie en Guinée-Bissau, et aussi de Nelvira Barreto, coordinatrice du mouvement des femmes bissau-guinéennes. Tout d'abord, Jorge Gomes.
Il nous a bien reçus. Il nous a promis de résoudre le problème le plus rapidement. Parce que sinon, la situation du pays va se gâter.
Et vous avez reçu cette garantie de la part du président?
Oui, oui, oui. Il dit qu'il a fait consultation à beaucoup d'universitaires pour savoir comment il doit faire. Parce que ça doit être résolu à la base de loi.
La réunion a été très positive, si je peux dire, très encourageante. Monsieur le Président de la République nous a confirmé qu'il est engagé dans le processus d'appeler les parties en conflit pour approfondir le dialogue, pour trouver des solutions politiques. Et ce qu'il veut éviter, c'est que une éventuelle dissolution de l'Assemblée nationale populaire ait place et que, au bout de compte, que les institutions de la République, telles comme elles sont dans ce moment, soient maintenues pour tout le mandat. Le rôle du président de la République est justement d'assurer la stabilité, le respect des lois, de la Constitution et garantir la paix, la cohésion sociale et l'unité nationale. Et je crois qu'on vient d'être rassuré par M. le président de la République, qu'il jouera son rôle à plein.
Nelvira Barreto du mouvement des femmes bissau-guinéennes. Auparavant, Jorge Gomes du mouvement de la société civile pour la paix et la démocratie en Guinée-Bissau. Au Burkina Faso, le président du CDP, le Congrès pour la démocratie et le progrès, passe ses premières nuits en prison. Recherché dans le cadre du putsch manqué de l'année dernière, Eddy Kombo-Higo a été arrêté par la gendarmerie dès son retour à Ouagadougou. Les précisions de notre correspondant sur place, Issa Napon.
Eddy Kombo-Higo a été gardé dans les locaux de la gendarmerie nationale presque aussitôt et après avoir été convoqué. De retour au pays après de longs mois d'absence, le président du Congrès pour la démocratie et le progrès CDP, ancien parti au pouvoir au Burkina Faso, a seulement passé 24 heures chez lui avant d'être arrêté. Une commission d'enquête diligentée par le gouvernement de transition avait révélé son nom comme ayant été de connivence avec les putschistes. Celui qui médite en ce moment son sort en détention avait pris la tête du parti de l'ex-président Blaise Compaoré après sa chute en octobre 2014. La candidature d'Eddy Kombo-Higo à la présidentielle suivante avait été invalidée par le nouveau code électoral burkinabé qui excluait toutes les personnalités du régime qui avaient activement préparé la modification de la constitution. Les barons du régime avaient alors mené des actions diverses contre le nouveau code électoral jusqu'à l'avènement du putsch manqué du 17 septembre dernier perpétré par l'ex-régiment de sécurité présidentielle et de la traque de tous les individus, militaires ou civils, ayant trempé de près ou de loin dans ce coup de force manqué. Issa Napon, Ouagadougou, VOA Afrique.
Au Nigeria, un policier et 19 civils tués dans une attaque menée par des éleveurs présumés contre 4 villages de fermiers dans l'état d'Amaroua. Et puis toujours au Nigeria, un civil tué dans la nuit de dimanche à lundi par les militants de Boko Haram lors d'une attaque contre le village de Babangida dans l'état de Yobe, dans le nord-est du pays. Les islamistes nigérians se sont emparés de 2 véhicules de la police avant d'être chassés du village, selon un porte-parole de la police de l'état de Yobe. Et au Cameroun voisin, une nouvelle série d'attentats suicides dans l'extrême nord du pays, dans la localité de Bodo, au moins 29 morts, dont les 3 kamikazes et 30 blessés, des attaques attribuées aux islamistes nigérians de Boko Haram. Ces attentats figurent parmi les plus meurtriers ayant frappé le pays. Miley Segal.
C'est dans un marché d'un village de la région de Bodo que les trois islamistes ont frappé ce matin. Bodo se situe sur la frontière avec le Nigeria, d'où opèrent régulièrement les combattants de Boko Haram. Depuis 2013, près de 1200 personnes ont été tuées dans des attaques dans l'extrême nord du Cameroun. Les cibles sont régulièrement des marchés ou des mosquées. Les 13 et 18 de ce mois, deux attentats suicides contre des mosquées ont fait respectivement 12 et 4 morts. Comme la plupart des attentats suicides, ils ont été perpétrés par des jeunes femmes. Depuis, les autorités ont interdit le port du voile intégral. Les islamistes nigériens se servaient du nord du Cameroun comme base arrière et pour s'approvisionner en armes, véhicules et marchandises. Le Cameroun a renforcé sa présence militaire, appuyé par une coalition régionale pour venir à bout des djihadistes.
La Voix de l'Amérique, en direct de Washington.
On reste en Afrique centrale. En RCA, publication officielle aujourd'hui des résultats définitifs du premier tour des présidentielles et législatives du 30 décembre 2015. Pas de surprise du côté des candidats au second tour de la présidentielle. Les précisions de notre correspondant à Bangui, Freeman Sipila.
5 requêtes pour la présidentielle avaient été émises à la cour, mais elles ont toutes été rejetées faute de preuves conséquentes. Sans surprise, Anissé Georges Doleguélé, 23,74% des voix, et Faustin Archange Touadéra, 19,5%, s'affronteront au second tour de la présidentielle, selon les résultats définitifs de la cour constitutionnelle de transition. Zachary Ndouba, président de la cour.
Aucun candidat n'ayant recueilli la majorité absolue des suffrages exprimés au premier tour du scrutin, les candidats habilités à se présentés au second tour sont Anissé Georges Doleguélé, Touadéra, Archange, Faustin.
Chez les requérants, on n'est pas tout à fait satisfait, mais obligé d'accepter les décisions irréversibles de la cour. Dans le camp des deux finalistes, on se frotte les mains et les discours sont plutôt apaisants. Grosse surprise pour les législatives annulées dans toutes les circonscriptions du pays en raison de graves irrégularités constatées par la Cour constitutionnelle, saisie d'ailleurs à travers plus de 400 requêtes. Reste à savoir maintenant la date du second tour de la présidentielle, improbable le 31 janvier 2016, selon le chronogramme électoral et des législatives qui devraient être reprises. Freeman Sipila, Bangui, VOA Afrique.
Au Burundi, l'insécurité persiste, notamment dans la province de Bujumbura rurale. Deux personnes y ont été tuées hier lors d'affrontements entre des éléments armés et les forces de sécurité dans la localité de Kivumu, commune de Mugamba. Les autorités locales indiquent qu'une arme et autres équipements utilisés par, je cite, des criminels ont été saisis. L'administration félicite par ailleurs la population qui a donné des informations aux forces de l'ordre. Afrique du Nord maintenant. En Libye, le Parlement reconnu par la communauté internationale a rejeté aujourd'hui le gouvernement d'union nationale formé il y a tout juste une semaine pour essayer de mettre fin au chaos dans le pays. Les espoirs d'une sortie de crise en Libye se sont donc encore plus éloignés. Un vote positif était crucial pour qu'entre en fonction ce gouvernement d'union nationale de 32 membres conduit par l'homme d'affaires tripolitain Fayez El-Sarraj. La communauté internationale comptait sur ce gouvernement pour lutter plus efficacement contre le groupe État islamique et l'afflux des migrants en Europe. L'État islamique a profité du vide du pouvoir en Libye pour prendre le contrôle de Sirte et de ses environs. L'actualité dans le reste du monde maintenant, la France vise l'été prochain des sanctions. Vise la levée l'été prochain des sanctions imposées à la Russie en raison de la crise ukrainienne, mais à condition que les accords de Minsk soient respectés. C'est ce qu'a déclaré hier à Moscou le ministre français de l'économie Emmanuel Macron. Le point avec John Lindon.
Dès son arrivée dans la capitale russe, où il doit relancer ce lundi avec son homologue russe le dialogue économique entre Paris et Moscou, M. Macron a abordé devant des hommes d'affaires français le sujet des sanctions qui ont mis un coup d'arrêt à la croissance des échanges commerciaux. Comme les États-Unis, l'Union européenne a introduit des sanctions de plus en plus dures contre la Russie, d'abord pour l'annexion de la Crimée en mars 2014, puis pour son rôle présumé dans le conflit avec les séparatistes pro-russes de l'Est de l'Ukraine, qui a fait plus de 9000 morts. Ces dernières mesures, qui visent les secteurs de la banque, du pétrole et de la défense, ont été prolongées fin décembre pour 6 mois alors qu'elles devaient arriver à échéance fin janvier. La Russie, en réponse, a appliqué un embargo sur la plupart des produits agroalimentaires européens qui touchent durement les agriculteurs français. La reprise du contact économique entre Paris et Moscou intervient sur un fonds de rapprochement diplomatique concernant la lutte contre le groupe djihadiste État islamique.
Et pour terminer, on revient à l'Afrique du Nord. En Tunisie, plusieurs centaines de membres des forces de sécurité ont manifesté aujourd'hui devant le palais présidentiel à Carthage, près de Tunis. Ils réclament une hausse de leur salaire. Plus d'infos sur notre site internet voafrique.com. Vous pouvez également nous joindre sur notre page Facebook.
Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.